Si tout va bien, on retrouve Daniel Mermet et toute son équipe.
Bonjour Daniel. J'écoute la rue. J'écoute des cris, des plaintes, des forces de l'ordre. J'entends des points de vue différents du MEDEF. Je suis ouvert à la répression. C'est pourquoi tous les opposants anti-CPE, je dis bien tous, seront, par mesure de précaution, confinés dans des cars molletonnés des CRS où chacun, je dis bien chacun, qu'il soit étudiant, lycéen, syndicaliste ou chômeur, recevra son coup de matraque. Et ceci dans le respect, l'ouverture de l'arcade soucidière, j'entends, le dialogue et la tolérance. Ceci dit, je ne céderai pas sur le CP, car 4 ans comme période d'essai serait mon recours. Le jeune a besoin d'être flexibilisé. Que dis-je ? Flic civilisé. Voilà, c'était Dominique V. de Paris. Merci Daniel de m'avoir offert le droit à l'expression.
Salut Mermet et tout le monde. Eh bien, message de Nîmes, je m'écarte un peu, s'il y a trop de bruit. Il y a du monde, il y a du monde de la journée, il y a des vieux, des jeunes, beaucoup de jeunes. Des noirs, des blancs, des marrons, des queutons, des rababacoules, des normaux, des petits bourgeois, des racailles, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des syndicalistes, des petits, des gros, des lunettes, il y a même un roux. Il y a, c'est pas mal du tout. Elle est là, la France. Elle est dehors, elle est dans la rue. Et si ces gens de droite sont pas capables de le voir, eh ben, on reviendra. C'est tout. Allez, bonne journée à tous.
Salut, c'est Jérém de Aubagne. Voilà, c'est pour vous dire que je reviens des manifestations de Marseille. Et, c'est parti en vrille. Et puis moi, je suis choqué. Je suis choqué parce qu'il y a 6 CRS qui s'en sont pris à moi. Je n'avais aucun signe distinctif sur moi. Et j'aurais très bien pu être un mec qui passait comme ça. Donc voilà, ce matin, ils nous ont pris à coups de flashballs et les CRS ont chargé sur Marseille. Et voilà, mais quelque part, c'est rassurant. Ça prouve que Villepin a peur et la violence est la force du faible. Donc ne lâchons pas l'affaire et on vaincra. Voilà, merci.
Donc nous revenons d'une manifestation contre le CPE à Paris cet après-midi qui s'est très bien déroulée jusqu'à arriver à Invalides où effectivement il y a eu des échauffourées. Donc nous avons vu des personnes cagoulées, frappées sur des manifestants pacifistes qui sont ressortis en sang, qu'on a traînés jusqu'au pied des CRS qui nous ont renvoyés vers les pompiers qui n'ont absolument rien fait et absolument pas moufté. Et voilà, donc nous avons assisté à une scène face à une horde de CRS alignés qui regardaient les événements se passer sous leurs yeux sans rien faire. Un jeune mec est sorti et les a regardés des larmes aux yeux en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi ces personnes étaient là pour juste observer et rigoler pendant que ses copains qui venaient des banlieues se faisaient taper par ces personnes cagoulées à terre. Donc voilà, nous avons regardé les informations en rentrant. On ne parle que de voitures cramées et de casseurs en banlieue. Donc on est un peu outré parce que on finit, nous, par se dire que ces personnes qui cassent et qui viennent foutre le bordel sont pas du tout ceux qu'on aimerait nous faire croire qu'ils sont. Donc voilà. Eh ben, bonne mission.
Eh bien, il y a eu 2 minutes sur les exactions en fin de manif, 2 minutes pleines sur TF1. C'est l'utilisation de la provocation des vandalismes qui sont faits pour dévoyer la manifestation et surtout décourager les étudiants de manifester. Moi-même, il y a quelques années, il y avait une manifestation des métallurgistes. À l'opéra, à l'arrivée, il y avait quelques individus qui cassaient les vitrines pour qu'ensuite les magasins de luxe soient pillés. Moi, je faisais partie du service d'ordre. Manque de chance, on a cravaté un des individus qui cassait les vitrines. Puis ce con-là, il avait oublié sa carte de policier. Il était en civil, en blue jean. Il avait donc sa carte de policier dans sa poche. Alors maintenant, on préfère maintenir ces provocations pour faire peur, pour que les gens aient le réflexe, comme en 2002, de voter pour la droite et l'extrême droite. C'est clair et c'est simple. 2 minutes de manifestation de casseurs qui n'avaient rien à voir avec la manifestation, les policiers étant bien sûr sur les bas-côtés. Voilà. Salut.
Bonjour, il est 16h45 selon la police, 17h10 selon les syndicats. International, en Irak, la guerre a fait 2000 morts selon les Américains et 35 000 selon les Irakiens. Social, le CPE va passer selon ma mère alors qu'il ne passera pas par ma grand-mère. Sport, football, PSG Marseille, 3-0 pour Marseille selon Marseille, 2-1 pour Lyon selon Paris. Et pour finir, la petite page météo.
Quelques nappes de brouillard selon Matignon. Les manifestants, quant à eux, annoncent un avis de tempête généralisé sur l'ensemble du pays. À mardi.
Voilà, c'était les amis de Vienne et alentour. Bye bye.
Eh ben merci les amis de Vienne et alentour et les autres pour les messages que vous avez laissés sur le répondeur de la base. J'y suis. Pas mal de messages d'anciens manifestants qui racontent l'histoire du policier en civil qui joue au casseur parce qu'on s'en aperçoit en retrouvant sur lui sa carte de police. Ça, c'est une histoire fréquente, ancienne, qu'on connaît. La façon de pourrir une manif, évidemment, c'est ce genre de provocation. Personne, évidemment, n'apportera la preuve que c'est comme ça que ça s'est passé hier à Paris dans un certain nombre d'autres villes, mais c'est un coup connu, c'est un coup classique. Aujourd'hui, ben pas mal de vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, et puis la fin de cette balade en Inde et au Bangladesh à travers les musiques qu'on a rapporté de là-bas avec le camarade Guy Vanctil. Et puis on ira faire un tour chez des pêcheurs, un petit village de pêcheurs au Bangladesh, des gens sympas, doux comme tout, sympas, qui nous ont bien reçus. Et on verra dans quelles conditions, hélas, manque de chance, ils vivent. Leur village étant dans la proximité d'un chantier de destruction de recyclage des navires. Et ils nous raconteront un peu leur vie, mais ce sera tout ça, ce sera en chanson, ce sera en musique, et c'est jusqu'à 18h là-bas si j'y suis.
Entendu sur France Inter au 13h de ce 23 mars, cette docte et édifiante interview de Jacques Barrot qui mérite un droit de réponse indigné. À la question que pensent les Européens de ce qui se passe en France, il a osé répondre en gros et en détail. Vous savez que les Européens aiment beaucoup la France. Ils sont nombreux ici à beaucoup aimer la France et ils sont effarés de ce qui se passe. Ils ne comprennent pas que la France puisse se complaire dans l'immobilisme et blablabla et blablabla. Mais monsieur Barrot, c'est bien parce qu'on aime la France et même l'Europe que nous avons dit non en mai et que nous redisons non aujourd'hui. Non au moins-disant social, non au moins-disant économique, non au moins-disant culturel, non au profil bas, non au laminage humain, non, non et encore non. Et c'est parce que moi aussi j'aime mon pays que je suis dans la rue pour mes 5 enfants, pour mes 5 petits-enfants. Parce que monsieur Barrot, vous n'avez pas le monopole ni du cœur, ni de la raison, ni de notre beau pays, que vous le veuillez ou non. Nous avons droit au respect. Gardez votre mépris pour vous, s'il vous plaît. Je ne vous salue pas, monsieur Barrot. C'était Isabelle du Pays Basque. Salut Daniel.
Voilà, mon message s'adresse à François Chérec. Donc François, on t'a à l'œil, nous fais pas le même coup que sur les retraites ou les intermittents du spectacle. Ceci est un message d'un ancien adhérent de la CFDT. Salut François.
Je suis derrière la manifestation. J'avais un rendez-vous professionnel du côté du boulevard des Invalides. Heureusement, je n'avais pas de voiture parce que là, je trouve ça navrant. Mais vraiment navrant de voir toutes les voitures bousculées, les pare-brises pétées, les fenêtres pétées. Je veux dire, bon, je comprends très bien qu'on se batte pour des acquis sociaux. Cela dit, il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une forme de mondialisation et que, à mon avis, on est bien lotis. Moi, le CPE, je suis entrepreneur, donc je suis pour. Mais c'est vrai que la grosse connerie, c'est que les acquis sociaux autour du CPE ne sont pas revalorisés, parce qu'on peut fragiliser l'emploi, mais si on soutient aussi la précarité, à mon sens, voyons dans les pays, par exemple, tels que le Danemark, etc., où sont des pays, bah, bien sûr, il y a Bien sûr, ce sont des pays dans lesquels il peut y avoir du chômage, mais derrière, il y a toute une collectivité, enfin, je veux dire, sociale, qui soutient la précarité, quoi, Panda. Alors qu'ici, en France, on veut le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'en fait, on veut foutre les mômes sur des boulots hyper précaires, mais, et puis en plus, on veut, on rogne sur tous les acquis sociaux. Donc, comment voulez-vous faire? Ça, c'est évident qu'il y ait des manifestations, hein. Cela dit, le CPE en soi, moi, je trouve pas ça mal. Je veux dire, bon, bah, il faut de la flexibilité dans le travail, dans l'emploi. Il faut que les gens puissent embaucher sans avoir peur d'embaucher. Eh bien, donnons-leur la possibilité de le faire. Mais, encore une fois, ne rognons pas sur les acquis sociaux. Voilà. Alors, je trouve ça dégueulasse d'avoir pété des voitures. Bref, à plus tard.
Je pense que nous devrions remercier Monsieur de Villepin, notre Premier ministre, pour avoir su rassembler nos banlieues et nos centres-villes dans un même élan.
C'est un monsieur dans la rue qui appelle les vieux, les jeunes et les petits pour monter dans le manège.
चरण मारू चक डोळ चाले चरण चरण मारू चक डोळ चाले चाकळ चींचू ची चाकळ चींचू ची चाले आज रोकडा ने उधार काले चरण चरण मारू चक डोळ चाले चरण चरण मारू चक डोळ चाले चाकळ चींचू ची चाकळ चींचू ची चाले आजे रोकड़ा ने उधार काले हे सोमा है ना साड़ा हे करसन काका काला हे भूरी बंडी आला हे लाल बेटा वाला हे सोमा है ना साड़ा हे भूरी बंडी वाला हो करसन काका काला हे दोनी दंडी डाला जारू चकड़ोल चाले 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 आजे रोकड़ा ने उधार काले चरण चरण मारू चक डोड़ चाले चरण चरण मारू चक डोड़ चाले चाकड़ चींचू ची चाकड़ चींचू ची चाले आजे रोकड़ा ने उधार काले आजे रोकड़ा ने उधार काले आजे रोकड़ा ने उधार काले
अरे बोल बोल रे बोल Tagadar, Tagadar.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil, la basse et j'y suis du Bangladesh au répondeur.
Flight number 2, arriving. Shahoj manush, bojete.
Voilà, cette fois on quitte Dakar, on quitte Chittagong après ce long voyage en Inde qui nous a conduit à Delhi et puis dans le Gujarat à Medabad, le chant qu'on a entendu là juste avant le générique de l'émission. C'était un après-midi très calme comme ça. Ça arrive dans ces pays, des moments très doux, très calmes avec des musiciens. Donc ensuite on est repassé par Delhi et puis Bangladesh, Chittagong, Dhaka et voilà. Aujourd'hui on rentre vraiment cette fois-ci et on fait un dernier tour, dernières images sonores rapportées de ce voyage où on s'est intéressé bien sûr d'abord à ces histoires de destruction et de recyclage des navires en Inde et puis au Bangladesh et puis l'histoire de ces ouvrières du textile et puis ce drame de cette usine de confection qui brûle, qui prend feu et puis ces femmes victimes. Vous avez été nombreux d'ailleurs à laisser des messages et à être très très touchés par ces éléments de reportage. On n'est pas les premiers ni les seuls à essayer de montrer dans quelles conditions sont produits les objets que nous consommons. Encore une fois, je le répète, le but n'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Les solutions, à mon avis, ne sont pas dans le boycott, la consommation ou même l'éthique de l'étiquette, mais évidemment dans des solutions beaucoup plus radicales, c'est-à-dire beaucoup plus politiques à l'échelle des réglementations internationales au niveau de l'OMC, au niveau aussi de l'application des lois, non pas que ces lois manquent dans ces pays, ni en Inde, ni au Bangladesh, mais toute la question est de les faire respecter. Or, pour faire respecter les lois du travail, il faut des syndicats, il faut que le monde du travail soit assez fort, on le voit actuellement chez nous, il faut qu'il soit assez fort, qu'il soit un véritable interlocuteur. Or, dans ces pays, ça n'est pas le cas, ou ça n'est que... C'est le monde du travail est très affaibli, il est relayé, son expression est relayé par des associations, par des ONG, mais ça n'a pas la force évidemment que peut avoir. En Inde c'est le cas cependant, mais en tous les cas c'est pas le cas du tout, ou très très peu au Bangladesh, la force syndicale. Donc voilà, c'est ça que les idées avec lesquelles nous revenons, on en a parlé tout au cours de ces reportages. Là aujourd'hui c'est beaucoup plus une balade, et on va commencer par là.
Le vacarme dans la rue, et on passe à une petite porte en fer forgé, et tout de suite est plus calme, avec sous un arbre un hôtel, avec un très joli goutte à goutte, une espèce de vasque en métal, qui avec un petit trou en dessous et des gouttes qui tombent l'une après l'autre, tic tac, tic tac, tac, sur un petite statuette en bronze qui représente un cobra, avec en face une tortue, avec en face une vache sacrée et quelques divinités que je ne reconnais pas. Juste à côté, un autre temple devant lequel un homme vient de s'installer. Il salue l'arbre en joignant les mains et il se retourne ensuite vers cet hôtel qui est à part. Et là, il y a un monsieur qui a l'air d'être le gardien des lieux, en pagne, pieds nus, une barbe blanche.
Alors vous êtes le Pujari ?
On est où là exactement?
C'est le temple de Ram dans un endroit qui s'appelle Sanskar Mandal.
Il y a 4-5 murtis ici.
Il y a 5 divinités ici.
Ki Ram ji mandir, Ram ji murti hai, Sita ji ki murti hai, Lakshman ji ki murti hai, Hanuman ji ki murti hai. 5 murti hai usme.
Il y a Ram, il y a Sita sa femme, il y a Lakshman son frère, et puis il y a aussi le dieu Hanuman.
Ça c'est le dieu singe.
Ouais.
C'est celui qui est dans l'hôtel là, oui, devant lequel le monsieur est assis en train de prier.
Et puis Mataji ki murti hai.
Et là-bas il y a deux déesses.
Khodiyar Mata, Chamunda Mata.
Chamunda et Khodiyar.
Mandir mein bhagwan ka seva puja hota hai, pancho sabko darshan hota hai, aur kya hota hai mandir mein?
Les gens viennent prier ici et puis le matin et le soir il y a des rituels.
Alors là il y a les vaches aussi. C'est à qui les vaches? C'est à vous?
À moi. Moi aussi j'appartiens au temple.
Ah, les vases vous appartiennent et vous appartenez au temple.
Ah oui, c'est ça.
Et c'est quoi là-bas, près de l'entrée? C'est très beau, il y a une sorte de goutte à goutte, comme ça, quelques gouttes d'eau qui tombent sur la tête d'un serpent.
C'est ce qu'on appelle un shivling, c'est le dieu Shiva. Le serpent le protège.
Et pourquoi les gouttes d'eau qui tombent sur la tête du serpent?
Là, la cloche, c'est un monsieur qui vient d'arriver pour prier, et donc il a fait sonner la cloche, et maintenant il s'incline, mais alors il s'incline, c'est vraiment le haut du front qui est posé à même le sol, avec ses encens à la main. Il va vers le deuxième autel qui est à droite, et il recommence à s'incliner.
Nous, ça nous étonne beaucoup, parce qu'on vient d'un pays où il n'y a pas tout ça. Pour nous, c'est très étonnant.
On s'occupe des prêtres ici, et puis aussi on s'occupe des vaches.
Et comment vous faites avec les vaches? Elles sont dans les rues. En ville, on voit des vaches qui sont partout, en liberté, n'importe où, comme ça.
Oh, ils n'ont pas de patron. Ces vaches n'ont pas de patron. S'il y a des vaches qui donnent du lait, on les garde ici, sinon on les chasse.
Ah, d'accord. Et dans la rue, quoi, c'est des vaches sans papier.
Oui, c'est ça.
Alors les coups de feu, c'est des pétards, et la fanfare, c'est la fête, c'est le mariage. Voilà, si vous vous mariez au Gujarat, dans cet état de l'Inde, l'état le plus à l'ouest de l'Inde, et je crois l'un des plus riches de l'Inde, eh ben vous pouvez trouver, un peu comme au Mexique avec les mariachis, vous pouvez trouver des musiciens qui voilà, qui arrivent comme ça avec leurs instruments, leurs trompettes, leurs trompinettes, leurs biniots, et qui vous charme et vous faites une ambiance à tout casser. Là, c'est intéressant parce qu'on arrive. C'est très agréable comme endroit. Hein. C'est aéré, c'est beau. Ça sent un peu le poisson séché, mais c'est très agréable. Et sur le sol, là, sur ce grand espace, il y a des filets qui sont étendus. Et les gars sont en train, ce monsieur-là, par exemple, est en train tout simplement de raccommoder ses filets. Voilà, ils vont nous raconter leur histoire après. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on nous dit, c'est qu'autour de la place, là, dans la verdure, bon, c'est un petit peu poussiéreux parce que c'est la saison qui veut ça. C'est les maisons des contracteurs, c'est les maisons des recruteurs, de ceux qui font les contrats, et c'est ceux qui vivent le mieux dans l'affaire. C'est ceux qui vivent le mieux, le plus confortablement.
Là, regarde, là, il y a une belle maison en dur, avec une belle véranda, à l'étage.
Voilà, c'est l'endroit des agents recruteurs.
Alors,
le drapeau du pays, il y a une dame magnifique avec son sari rouge. Enfin, ah, mais c'est un rose bengale. Le voilà, le fameux rose bengale. puis c'est la couleur, exactement la couleur du sari de cette dame, qui est à contre-jour. C'est très beau, hein, de cette pièce d'eau, d'étang dormant, très vert, l'eau est très très verte. Et il y a cette dame avec dans son sari rose bengale, avec un liseré jaune et son seau, qui nous regarde tout à fait étonné, sans du tout pouvoir imaginer ce que je peux être en train de raconter. C'est quand même étonnant, hein, d'entrer dans un village de pêcheurs comme ça. La foule, la curiosité, les gens nous regardent vraiment comme ils nous détaillent, quoi. Hein. On n'a jamais vu de blanc comme ça. C'est assez souriant. Et là, il n'y a que des filles, regarde, il n'y a que des fillettes. Ah, on est à l'attraction, là. Hein. Il ne suffit de pas grand-chose. Il y a tout le village autour de nous, là. Oh, c'est tout décoré.
Là, on pousse toutes les affaires, on bouge les coussins, on pousse un peu les chaises et les lits pour qu'on puisse rentrer dans cette cabane.
Voilà, on est dans ce village de pêcheurs au Bangladesh, à côté de Chittagong. Et les gens sont très contents, ils voulaient qu'on vienne. Ils avaient entendu parler de la présence d'occidentaux, de journalistes occidentaux, et ils voulaient attirer l'attention sur leur sort. Ils sont de villages, de pêcheurs, très, 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 très modestes, mais bon, la vie, ça va à peu près, sauf que ben, y a ces fameux chantiers de destruction des navires, de shipbreaking, à côté, et ça a entraîné des pollutions terrifiantes, et ben, leurs poissons, ben, y a plus de poissons, il faut aller beaucoup plus loin pour pêcher les poissons, et la survie de ce village est difficile, sinon compromise, peut-être même définitivement compromise. Alors, il voulait nous raconter ça. Ce qui est important à savoir, c'est que ces gens-là, on ne sait pas a priori quand on ne connaît pas ce pays, le Bangladesh, sont hindouistes. Et c'est très important dans un pays qui est majoritairement musulman. Le Bangladesh est majoritairement musulman. C'est un avatar, c'est le cas de le dire, de l'histoire. Après la partition de l'Inde, entre l'Inde plutôt majoritairement hindou, même si on compte à peu près 200 millions de musulmans en Inde, mais contre à peu près 800 millions d'hindouistes. Donc les musulmans sont minoritaires, même si c'est une communauté et un monde très important en Inde. Les partitions de l'Inde, partitions avec ce qui va devenir le Pakistan, majoritairement musulman. Ça, c'est des moments de l'histoire. Et dont le Bangladesh, qui était dans un premier temps le Pakistan oriental, est devenu, après une lutte d'indépendance contre le Pakistan, le Pakistan que nous connaissons, est devenu le Bangladesh, un pays indépendant et majoritairement musulman. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ces identités religieuses, il y a évidemment des avatars politiques et historiques qui se prolongent et qui se vivent toujours aujourd'hui. Très important de ne pas perdre de vue non plus l'importance de l'hindouisme, de l'hindouisme radical en Inde. On avait parlé en 2003 lors de nos reportages, à travers un parti très puissant, très très puissant, et qui domine une partie de l'Inde, et notamment une ville comme Mumbai, c'est-à-dire Bombay, qui est un parti nationaliste et religieux à la fois, qui exerce une pression très importante contre l'islam en Inde et contre le Pakistan. On ne peut pas comprendre aujourd'hui l'islam radical ou l'islam politique dans le monde si on ne comprend pas la poussée et la pression de l'hindouisme radical venant de l'Inde. C'est un élément qu'il faut avoir présent à l'esprit. Et ce petit village de pêcheurs au Bangladesh, les gens sont hindous, sont hindouistes, ils sont tout à fait bangladais, mais c'est leur religion, c'est une petite communauté, et dans le contexte, eh bien, c'est une minorité, donc, de pêcheurs qui nous reçoivent chaleureusement ce jour-là. On a tout le village autour de nous. Hein. On s'est assis dans cette maison, mais très 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 modeste, hein, en tôle et en, en feuilles de bananier au-dessus de nous, avec des poutrelles de bambou. Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Doulaldas.
Donc là, on est dans un village de pêcheurs, on a vu en arrivant hein, les filets, les gars qui sont en train de réparer les filets, il y a des odeurs de poissons, etc. Et il se trouve que votre village est perturbé parce qu'à côté, il y a ces chantiers de démolition des navires, ces gros, gros navires qui viennent échouer là et finir leur vie depuis le monde entier, qui sont démolis là. Et évidemment, il y a plein de pollution, de gaz, d'oxyde, de pétrole et de tas de saloperies à bord de ces navires. Et tout ça, ça pollue l'environnement, ça pollue la mer, ça pollue les sols, ça pollue la terre. Si bien que vous, au point de vue de la pêche, c'est plus ce que c'était.
À l'époque, mon père était un pêcheur, il pêchait aussi. C'était plus facile parce qu'on trouvait des poissons au bord de la mer. Et même quand j'avais commencé mon métier comme pêcheur, c'était la même chose. J'attrapais beaucoup, beaucoup de poissons au bord de la mer. Mais maintenant, il faut aller très, très loin, qui est plus dangereux. Et en plus, on a besoin de des machines techniques. Sinon, ça devient très, très difficile et très dangereux.
Est-ce que vous êtes allé voir les patrons des chantiers pour discuter avec eux de cette histoire de pollution ? Est-ce que vous avez essayé d'obtenir des dédommagements ?
Nos filets ont été endommagés et nous leur avons expliqué que la condition est très, très mauvaise. Mais ils nous ont porté une plainte, mais personne ne nous a entendu.
Vous vous sentez abandonné, quoi, en somme ?
Alors non, ils ne nous écoutent pas. Par contre, ils disent que comme ils payent un impôt au gouvernement du Bangladesh, donc leurs profits, leurs avantages sont beaucoup plus importants que les nôtres.
C'est ça. Les patrons des chantiers considèrent que déjà ils payent des impôts. Bon ben, démerdez-vous avec le gouvernement.
Oui, exactement.
C'est ça, c'est ça. C'est ça. On a absolument le faire voir leur port, il y a des moules qui posent déjà. C'est vachement marrant, c'est la marée basse là. Et les moules posent déjà sur les bateaux. Ce qui est marrant, c'est que leurs bateaux sont des canots de sauvetage qui ont été récupérés sur les grands navires, sur les grands paquebots. Et puis il y a aussi leurs bateaux traditionnels à eux, en bois, qu'on voit là, toute cette partie-là, c'est quand même. Et là, c'est la marée basse, c'est très très beau là, évidemment, c'est boueux, ça pue, bon, c'est la vie. Mais là-bas, on voit qu'il y a un magnifique reflet de soleil sur l'eau. Là. C'est le plat d'argent là-bas. Manque de peau, ces gens-là sont très malheureux parce que depuis qu'il y a ces chantiers de démolition de navires, il y a des tas de saloperies, de polluants de toutes sortes, d'acides, de pétrole, de machins qui leur pourrit la vie et leurs poissons. Mais sinon, il ne faudrait pas grand-chose pour être heureux, quoi. On est dans cette cabane. On est au moins 150. Il n'y a pas une femme. Il n'y a que notre traductrice. Il n'y a que Zarine, la traductrice, mais sinon, il n'y a pas une seule femme. Il y a des vieux, des jeunes, des gamins, beaucoup de gamins. Et alors là, on doit être en principe en train de se préparer à chanter l'hymne national.
Bangladesh, your land, your home.
C'est une hymne nationale, non?
Oui, c'est pas un thème, c'est une chanson sur le Bangladesh, sur la beauté du Bangladesh.
Voilà, on rentre du Bangladesh avec les notes de cette chanson patriotique, hein, d'hommage à ce pays. Et on redescend sur terre, retour sur terre, retour ici en France, en attendant que la peur change de camp, quand la banquise craque, les pingouins s'agitent, vous connaissez tout ça. Et tout ça, eh ben, on l'entend sur le répondeur de la basse, si j'y suis. C'est vendredi, c'est le jour où on a un peu plus de temps, on se donne un peu plus de temps pour écouter les répondeurs, les messages que vous avez laissés sur le répondeur. Évidemment, on est très très loin en apparence des préoccupations des pêcheurs du Bangladesh ou des ouvriers de l'Inde, quoique à bien des égards nous appartenons malgré tout au même monde.
Valérie, Charente-Maritime. Bon, ça fait maintenant un mois qu'on observe les manifs anti-CPE de cette jeunesse. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est les revendications des jeunes. Mon Dieu, stop à la précarité, on veut un emploi à vie, on veut la retraite à 60 ans, et 76% veulent être fonctionnaires. Je me dis que cette jeunesse-là, elle est vieille, voilà, c'est des baltringues. Vous êtes vieux, avoir des revendications comme ça, c'est nul. Certes, le CPE, c'est pas la panacée, mais la précarité, ça existe depuis au moins 25 ans, c'est pas 10 ans, et sous le gouvernement socialiste de Mitterrand, c'était pareil. Moi, je vois pas, j'ai pas d'idéologie là-dedans. Mais ce que je dis, c'est que la précarité, ben, on s'y adapte. Moi, je m'y suis adapté. Et quelque part, ça met un peu de piment. C'est l'aventure de la vie, quoi. Voilà. Alors, évidemment, quand on veut être tout de suite fonctionnaire avec une retraite à 60 ans, hein, pourquoi pas rester chez papa-maman, trouver sa copine, garder son doudou, arriver à la retraite tranquille, à rien foutre, et puis avoir une vie chiante. Voilà. Vous êtes chiants, les jeunes.
Vincent, à Nantes, paysan. Écoute, je voulais faire part de mon sentiment exaspéré, un peu et inquiet. Je veux dire, là, je sens les syndicats qui partent vers le gouvernement. On sent venir la division habituelle syndicale, quelques mesurettes qui vont satisfaire la CFDT, etc. et tout. Il y a une chose qui est hyper fondamentale. On a fait faire une formation express en l'espace d'un mois à beaucoup de nos jeunes qui ne s'intéressaient pas à la politique et qui là s'y intéressent, veulent avoir leur mot à dire. Et je pense que là, il est fondamental de ne pas les laisser tomber. Ma fille a 18 ans, elle a la rage. Elle supporte très très mal que le débat soit tronqué. Et à mon avis, ça va casser sec si on les laisse tomber, quoi. Voilà. Je te fais part de ça. J'ai le même sentiment, moi, en tant que paysan, dans mon affaire de paysan bio, par rapport à ce qu'ils décident au niveau de l'Europe, au niveau de la nation, etc. et tout. Je ne peux être que solidaire avec eux. Et si ça casse, j'irai casser avec eux. Salut Daniel, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. C'est sûrement un des derniers à être honnête à France Inter. Salut, à bientôt. Au revoir.
Aujourd'hui, jeudi 23 mars 2006, Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, entame son 17e jour de grève de la faim à l'Assemblée nationale pour s'opposer au projet de délocalisation de l'usine Toyal de la Vallée d'Aspe. Cette usine moderne, performante et rentable, la seule de la vallée, emploie 150 personnes et fait vivre la vallée. Pour plus d'informations sur ce dossier, vous pouvez aller sur le site www.jean-lassalle.fr, www.jean-lassalle.fr, et Lassalle s'écrit L-A-2-S-A-2-L-E. Vous pouvez aussi soutenir ce député dans son combat qu'il oppose au groupe Total, en lui adressant un message sur le même site ou en vous inscrivant à son comité de soutien. Cet homme, issu d'une famille de bergers, berger lui-même, œuvre pour le monde rural. Il a besoin du soutien de tous ceux qui pensent que l'économie doit être au service des hommes et de leur territoire, et non l'inverse. Merci. Au revoir.
À 8h10, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu la terrible chronique de Benoît Colombat sur les immigrants clandestins 3 ans après la fermeture de Sangatte. Et j'ai entendu les bénévoles de la Croix-Rouge qui essayent de les aider, qui leur donnent des petits sachets avec 3 ou 4 morceaux de pain dedans. Ça se passe à 2 ou 3 heures de Paris. C'était terrible de voir ces pauvres êtres humains qui étaient transformés en chiens affamés, prêts à tout pour pouvoir manger. Et puis après, sans transition aucune, j'ai entendu Monsieur Jean-Pierre Coff, que j'aime beaucoup par ailleurs, hein, mais qui nous a parlé de la recette des œufs engelés au jambon, du pajot rôti aux agrumes avec sa compotée de courgettes et de tomates au thym. Voilà. Donc, je voulais vous dire que c'était terrible d'entendre ça, que je me suis vraiment sentie honteuse, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Moi, je voudrais savoir, quand ça va se passer à la radio. Si ça va se passer dans la soirée, donc dans ce cas-là, je vais prendre une classique pour la soirée.
Ah là, parce qu'il y a la musique du matin, la musique du midi, la musique du soir.
On a un cycle de 24 heures.
Pour les ragas.
Oui.
Every 3 hours.
Chaque 3 heures.
Alors là, est-ce qu'on pourrait faire un raga d'entre 17 et 18 heures à peu près?
Rag Yama. Ça s'appelle Rag Yama.
चतर सुघरा पिया बबरी बना दियो रे कैसे मन को समझाऊं कल नहीं आ वे मोदिया कल न nire ga ma da ni da ni da ba ma ga re ga re nire da ka la na ga re da ni da ba ga re sa ni re sa ni da ma da ni da ni da ba ma ga re sa ka la na a ve mo di ja li ka la na pa ma ga re ga ma ga re sa ni re sa ni da ma da ni da ni da ba ma ga re sa ka la na a ve mo di ja ka la na nire da ma da ba nire sa ni da ba ma da ba ma ga re sa ka la na hi a ve mo di ja li ka la na hi a ka la na hi ja ka la na a ve
C'est l'extension d'une théorie chère aux entreprises actuelles, le flux tendu au niveau du stock, top zéro. Mais là, c'est le flux tendu au niveau des moyens humains, nombre d'heures du zéro. Ah, ces industriels, Pascal, un petit prof, salut.
Bonjour, Michel Rioux, conseillère dans une ANPE de Bretagne. Une question à M. De Villepin et une information sur une mesure d'aide à l'emploi pour les jeunes qui est déjà en vigueur. Pourquoi, M. De Villepin, insistez-vous, poursuivez-vous pour le contrat première embauche ? J'ose espérer que votre ministre, M. Borloo, a dû vous l'informer que le contrat jeune en entreprise est une mesure qui existe depuis plusieurs années en faveur des jeunes de moins de 23 ans dont le niveau de formation est inférieur au baccalauréat, qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et que tous les employeurs affiliés à l'UNEDIC sont concernés. Des aides mensuelles de 150 à 300 euros sont accordées à ces mêmes entreprises pendant 3 années. Cette mesure me semble bonne. Alors, pourquoi le CPE ? Bonne journée à tous. Au revoir.
Oui, bonjour, là-bas, si j'y suis. J'ai écouté le journal de 7h30 ce matin sur Inter et je voudrais réagir à l'intervention du représentant des étudiants qui se plaignait de ne pas être reçu en même temps que les syndicats de travailleurs. Et divisé pour mieux régner, ça ne vous dit rien, jeune homme ? Bien sûr qu'on va vous faire croire que vous valez moins qu'eux et à eux qui sont plus importants que vous. Vieille ficelle patronale et politique. Et que dire de celle qui consiste à vous faire attendre une semaine de plus ? Ne nous rapprochons-nous pas des vacances ? Et les examens ? Terrible, ça, les examens. Attention, pas d'examen, pas de travail. Oui, mais si le travail, c'est un CPE ? Décidément, les ficelles sont grosses. Mais la vraie question, c'est avalerez-vous l'hameçon qui est au bout ? Allez, au revoir à tous. Et vous avez le soutien d'un syndicaliste qui aurait aimé que les syndicats refusent d'être reçus sans vous. Car la lutte doit être collective et unie. Ne baissez pas les bras, de toute façon, on va gagner. Jean Do en Corse.
Des messages comme ça, on en a des quantités de partout, ça arrive. Il y a vraiment un moment d'effervescence que vit ce pays, on vit ça de façon cyclique, mais c'est quand même des grands moments, hein, des moments d'effervescence, de jubilation, de peur, de bras de fer et de langue de bois. Donc, à l'heure, nous sommes 17h51 ce vendredi sur France Inter et partout. Personne ne sait quelle en sera l'issue et on scrute.
Voilà, j'ai reçu un message là d'un conseiller municipal de Montélimar et message sur internet. Et voilà, donc ce qui dit le message, c'est à votre bon cœur, monsieur dame. C'est décidément coutume chez les Chirac de dépenser de l'argent des autres. Bernadette Chirac est venue à Montélimar faire son cinéma pour récolter ses pièces jaunes. 200 kilos de pièces ont été recueillis, correspondant à environ 10 000 euros. J'ai interrogé monsieur le maire UMP de la ville pour savoir combien cette opération avait coûté. Sans compter le prix de l'affrètement du TGV spécial, du détournement de plusieurs trains sur l'Ardèche, le coût du personnel des services techniques de la poche municipale, etc., la ville a déboursé 80 000 euros. Pris sur nos impôts locaux, bien sûr. Mais plus choquant encore, les chambres et repas, un des meilleurs hôtels-restaurants de la région pour la première dame de France, et son aéropage de 130 personnes, ont été réglés par un chèque de l'association Opération Pièce Jaune. Quand on pense à tous les petits-enfants qui ont cassé leur tirelire pour faire de la publicité à Madame Chirac, au maire de Montélimar, et payer ses agas, certains n'ont pas beaucoup de vergogne. Ce mercredi 8 mars 2006, monsieur le commandant des conseillers municipaux de Montélimar, on vit vraiment dans une république bananière. Voilà, et gros bisous à la bistouille.
Je sais pas ce que ça veut dire, gros bisous à la bistouille. Effectivement, on a eu beaucoup de messages racontant cette histoire de pièces jaunes. C'est pas la première fois d'ailleurs. Je crois que nos confrères du Canard Enchaîné avaient déjà raconté des histoires analogues qui amuse plus ou moins et qui amuse peut-être de moins en moins. Il y a quelque chose qui grince aussi, hein. Je parlais de jubilation, je parlais de scruter je ne sais quels oracles. Il y a aussi quelque chose qui vient du fond du pays et qui ressemble un peu à une lame de fond.
Salut, c'est Michel de Saint-Paul. Oh putain, c'est trop bon. Franchement, il faudrait que les vignerons s'activent un peu, que dans les banlieues, ça rechie à nouveau. Et puis, si possible, que les routiers bloquent les routes. Et là, franchement, ça serait le pompon. Bon, mais je fais des gros bisous à tout le monde dès que ça dure. Hein. Ciao.
Nouveau mot de la neuve langue. Le président d'un syndicat de police, pour distinguer les casseurs des manifestants anti-CPE, parle de vrais jeunes et de faux jeunes. Donc maintenant, le concept, c'est faux jeunes. Il y a des vrais jeunes et des faux jeunes. Pourtant, les faux jeunes parlent eux aussi de la lutte des classes. Bon, bye bye.
C'est Nina, de Vitesse-François. Écoute, je suis maman de deux enfants, tous les deux, ils sont fonctionnaires et travaillent. Mais moi, aujourd'hui, je pense à toute la jeunesse de France, étudiants, lycéen, même collégien, parce que ça va vite, l'âge passe vite. Et c'est en danger, aujourd'hui, ils sont en danger par rapport à ce CPE. Il faudrait que tous, mais tous à 100% sortent des facs, des collèges et des lycées, et que tout ça aille manifester paisiblement et dans le calme, et pour défendre leurs acquis, parce que le code du travail est en danger, leur jeunesse est en danger, leur avenir est en danger. Alors je les défends et je suis avec eux à 100%. Passe mon message, bravo les jeunes, sortez tous, ne restez pas enfermés. Sortez, défendez vos acquis et nos acquis.
Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont laissé des messages cette semaine sur le répondeur de la base. Et j'y suis navré de ne pas pouvoir tous les passer. On fait ce qu'on peut. On essaye d'en passer un maximum ou de passer ceux qui, sur un sujet, nous semblent les plus expressifs, les plus représentatifs, les plus touchants ou les plus drôles parfois. Merci à tous. Merci aussi à nos amis d'Inde et du Bangladesh. Merci à Padma Natarajan, à Pierre Prakash, à Rupam Singh et Sten Le Berigo. Merci à Nazma Akhter, Shamina Nasrin, à Cédric Gouverneur et Amirou Lake Amin. Merci à notre traductrice Zarine Chouduri. Merci à Lex Lieri, Prit Pandilla, Dominique Barry, Mohamed Tariq de Toxic Slink. Merci à Nitebo Moni de Ban Asbestos, Sirajuddin Belal de Ipsa, merci Mamoun Abdullah et Tipu Sultan de Protomalo, Korshed Alam, Uday Shankar, Selim Moula, Salim, Jean-Paul Harpi, Anouk Barwa, Myriam Bassino et Farida Parvin, merci Biren Purohit, Mandip Drouva, merci aussi à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme et à Basilia Manoni du Théâtre de la Ville. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas. Si je vous rappelle que vous pouvez voir un diaporama des photos de ce reportage sur le site là-bas.org, là-bas.org. Il y a un aménagement maintenant qui est très très beau. Technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bézikian. C'est Antoine Chaot et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, montée par Coy Nguyen et Guy Vanctil, assistée de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert, le chef du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. C'est le moment de la réclame. On va peut-être avoir les pruneaux.